Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être à nouveau avec Iris Marodeau. Salut Iris.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ça va très bien, je te remercie. Et toi?
Écoute, ça va, merci. Merci d'avoir accepté là, de refaire un épisode parce qu'on avait déjà, on a déjà fait un épisode où tu étais venu en binôme avec Jérémy Dubois. Regardez tout à l'heure, c'était l'épisode 34. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, bah, vous pourrez creuser un petit peu plus sur cet épisode-là si vous ne l'avez pas déjà écouté. Et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, est-ce que tu peux rapidement te représenter un petit peu aux auditeurs, s'il te plaît?
Alors, donc je suis kiné en région parisienne et je suis spécialisée, on va dire, dans la prise en charge des patients qui ont des maladies neurologiques. En fait, j'ai fait un master après mes études de kiné en IFMK qui m'a permis, on va dire, de vraiment de m'expertiser dans le champ de la neurologie. Et dans mon cabinet avec Jérémy Dubois, on s'occupe essentiellement de patients qui ont des AVC, des scléroses en plaques, des patients atteints de la maladie de Parkinson, des patients myopathes et d'autres maladies plutôt rares. Donc vraiment, on est devenu expert dans le domaine, on s'occupe que de ce type de patients. En parallèle, je suis formatrice en IFMK dans plusieurs écoles parisiennes et je suis intervenante auprès de l'agence EBP sur une formation en ligne en e-learning avec Jérémy Dubois, sur le thème de la neurologie et de la neuroééducation.
Parfait. Bah, écoute, merci. Merci, merci. Et donc, du coup, aujourd'hui, là, tu as proposé un article qui est issu d'une revue Cochrane. Est-ce que tu veux bien le présenter, nous dire pourquoi tu l'as choisi?
Alors en fait, c'était il y a quelques années, on va dire, où je commençais à rédiger mes cours et j'essayais de trouver des arguments. Et je suis tombée sur cet article, enfin, sur cette revue de la Cochrane, parce que je voulais parler des étirements dans la prise en charge des patients qui ont des maladies neurologiques. Parce qu'en fait, finalement, c'est une pratique très courante qui est enseignée partout et qui est pratiquée par quasiment tous les praticiens qui s'occupent de patients atteints de maladies neurologiques. Et voilà, il y avait tout un débat sur l'utilité des étirements dans ces prises en charge, puisque finalement, c'est des pathologies très chroniques. Est-ce qu'on peut se demander si les étirements sont efficaces ou pas? Et donc, je suis tombée sur cet article. Et bon, lisant rapidement, je vois qu'elle conclut que les étirements ne sont pas du tout efficaces dans la prise en charge des maladies neurologiques et que c'est inutile, hein, que le niveau de preuve était assez élevé pour dire que c'était inefficace. Et donc, je me suis dit, mais quand même, c'est assez fort. Enfin, il faut quand même aller un petit peu plus loin dans le sujet. Donc, j'ai lu l'article un peu plus en détail. Et en fait, il y a plein de trucs à dire sur cet article qui, pour moi, sont contradictoires ou, on va dire, sont discutables. Et donc, voilà, je suis contente de pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui et d'argumenter sur ce sujet.
Oui, bah, j'imagine, ouais. C'est vrai que ça a dû faire bizarre parce que quand tu prends. En plus, pendant des études universitaires, tu prends un article de la revue Cochrane, genre grosse référence, après tu vois l'analyse de niveau de preuve avec grade, c'est pareil, gros truc de référence et tout, et ils te mettent un haut niveau de preuve, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, comme quoi des étirements, alors il y a en pathologie neurologique, mais dans l'article ils évaluent à la fois pour les pathologies non neurologiques et aussi pour les pathologies neurologiques, mais ils te disent que voilà, il n'y a aucun intérêt. Ouais, ça a dû vraiment te faire bizarre. Et moi, je t'avoue que. Si jamais c'est vraiment le cas et que ça fait avancer les pratiques, on laisse tomber des choses qui ne servent à rien, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile à concevoir que des patients en train de se rétracter, si on n'utilise pas ce genre de technique, enfin, qu'on l'utilise ou qu'on l'utilise pas, que ça fasse pas de différence, ça paraît un peu fou. Et voilà. Et donc, du coup, vu que t'es allé un peu chercher un peu plus loin, hein, qu'est-ce que, Qu'est-ce que tu as pu identifier?
Donc déjà, donc c'est voilà, elle a étudié 49 études sur un total de 2135 participants. Donc effectivement, elle a catégorisé les patients neurologiques et non neurologiques. Et donc nous, on va parler essentiellement de la partie neurologique, mais je vous invite à lire la partie sur les patients non neurologiques. Et elle a choisi 18 études, dont 898 participants atteints de maladies neurologiques. Mais dans les maladies neurologiques, on a de tout, c'est-à-dire qu'on a du central et du pas central. Donc par exemple, elle a choisi des études parlant de l'AVC, et elle a choisi par exemple des études parlant de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui n'est pas du tout centrale, où en fait les phénomènes de rétraction ne sont pas du tout les mêmes que les phénomènes centraux avec des mécanismes de spasticité. Donc, déjà, ça pose question, mais bon, c'est intéressant, elle a quand même élargi le champ en fait pour donner des arguments sur les rétractions musculaires et les étirements. Et donc, elle a choisi de regarder des études qui parlaient d'étirements sur une intervention de moins de 7 mois. Donc, dans les étirements, elle définit les étirements comme un allongement mécanique des tissus mous pendant minimum 20 minutes. Et ces critères, c'était la mobilité articulaire, donc l'amplitude articulaire, la qualité de vie, la douleur, les limitations d'activité et éventuellement la spasticité. Et donc,
Attends,
dans cette
excuse-moi, excuse-moi.
population, voilà,
Pardon.
c'est.
Je t'embête un peu. C'est 20 secondes ou 20 minutes la durée d'étirement?
20 minutes.
20 minutes, ah ouais, c'était des séances. Ok, tu vois,
Voilà,
même dans ma
c'était
tête,
des séances
c'était
de 20
pas.
minutes. Des séances de 20 minutes.
D'accord. J'avais mal retenu, mais je suis un peu vite. Je croyais que c'était des étirements qui duraient 20 secondes, mais tu vois, en fait, non. Oui, c'est
Non,
des
c'était quand
séances de 20
même.
minutes, ouais.
Ah
C'est
ouais,
pas
c'était
rien.
quand même assez important, quoi. Et donc, bah, dans la population, il y a des patients qui ont fait des AVC, des patients qui ont la sclérose en plaques, des Guillain-Barré et des blessés médullaires. Donc, une population qui est quand même assez différente. Même déjà au sein même, par exemple, d'un patient qui a une maladie centrale, genre un AVC, et un patient qui est blessé médullaire, la spasticité n'est pas tout à fait la même. Donc, tu vois, déjà, comparer ces populations, ça pose question. Et elle conclut à la fin qu'effectivement, l'étirement est inefficace. Et elle parle même de l'effet dose. C'est-à-dire qu'elle a regardé des articles en fait, qui utilisent des plâtres, des positionnements en attelle, des auto-étirements administrés et d'autres types d'auto-étirements. Après, elle ne rentre pas dans les détails. Et elle dit que voilà, c'est inutile. Peu importe la dose qu'on va infliger au patient, qu'on va réaliser pour le patient. Et donc on se dit, mais punaise, waouh, tout cet investissement, les orthèses, les équipes orthopédiques qui viennent mettre des orthèses de posture, bon, bref, c'est quand même assez. Voilà, ça pose question. Et donc après, je suis allée un peu plus dans le détail. Et en fait, déjà, il y a plusieurs fois où elle saute au site, où elle cite ses propres articles. Et ça m'a un peu choquée. Et même la qualité méthodologique des articles qu'elle utilise, bah, elle n'est pas terrible. Des fois, le nombre de sujets, il est très petit, quoi. Donc voilà, ça pose question. Et voilà, je me dis effectivement, est-ce que ce type d'article qui va être lu par un certain nombre d'auteurs, enfin un certain nombre de praticiens, va bloquer en fait sur la pratique et sur l'utilisation des étirements? Donc voilà, c'est intéressant qu'on puisse en discuter aujourd'hui.
Bah, c'est sûr, tu vois, dans ce que tu dis, il y a plein de trucs et il y a notamment le fait. Alors, moi, ça me fait penser à une situation en musculo-squelettique, le domaine que je connais plus, comme tu le sais, et comme les auditeurs le savent, où, par exemple, en Grande-Bretagne, il est très difficile de se faire opérer du genou maintenant, enfin, de se faire opérer pour une douleur a priori méniscale, parce que tu as deux études qui ont montré que. Tu te fasses suturer ton ménisque ou que tu aies une opération simulée, ton résultat il est le même. Et en fait, le problème que ça pose, c'est que bah, tu pourrais avoir des décisions prises au niveau remboursement, au niveau tout ça, sur des articles. En plus, encore une fois, en revue Cochrane, c'est un peu la référence et on pourrait se dire, bah voilà,
Confiance,
là,
on
truc
fait
de,
confiance. Eh
voilà,
oui.
truc de qualité. Bah ok, on a envie de faire des économies, là on peut sucrer plein de trucs quoi. Et le souci après c'est de voir justement, enfin tu vois moi ce que ça m'évoque c'est aussi ça, je peux garder le parallèle avec ces études-là, où en fait oui la majorité des gens, pour les les douleurs méniscales, de se faire opérer, ça ne fera pas de différence. Mais tu vas voir certains patients pour qui ça fait vraiment une différence. Alors, peut-être là, ce qui n'est pas pareil là, je ne sais pas, tu vas me dire, c'est que du coup, en fait, au niveau méniscal, les patients pour qui ça fait une différence sont trop rares pour apparaître dans des études comme ça. Et donc, la conclusion purement positiviste, ce serait de se dire, bah, faut plus opérer les gens. En fait, non, l'idée, c'est de, ce que j'aurais en tête, moi, c'est plutôt de dire, repérons les gens qu'on a vraiment besoin pour nous aider à faire un tri et d'éviter d'opérer ceux qu'on n'a pas besoin, mais empêchons pas ceux qu'on a besoin d'en bénéficier. Et là, aujourd'hui, on a des critères plus précis, etc.
C'est un peu la mode dans tout ce qui est traitement médicamenteux sur les bons répondeurs et les moins bons répondeurs, en fait.
Ouais, c'est
Donc
ça.
maintenant, on essaie de plus cibler, on essaie de mieux évaluer, on essaie de plus cibler pour savoir si le patient est plutôt bon répondeur ou mauvais répondeur à tel ou tel type de traitement, quoi. Et
C'est ça.
après, pour les étirements, là, tu vois, les populations étudiées, elles sont tellement hétérogènes que,
Ouais,
en fait, je ne comprends même pas l'intérêt d'aller chercher des comparaisons entre autant de populations différentes. Je trouve que les mécanismes physiologiques sont vraiment différents. Sur une maladie neuropériphérique, c'est une rétraction musculaire articulaire qui va être dans un processus très très long. Sur les maladies centrales, bah, et comme il y a la spasticité, du coup il y a des mécanismes d'hyperactivité, donc les mécanismes sont complètement différents. Donc pourquoi en fait avoir cherché à comparer autant de populations différentes? Je ne peux pas.
Bon, ouais.
Peut-être qu'elle avait quelque chose à démontrer dans ses, voilà, dans ses arguments, et elle était sûre d'elle. Mais voilà, je me pose la question, ouais, de l'impact que ça peut avoir. Comme je disais au début, on est très très nombreux à utiliser les étirements sur les patients neurologiques, c'est indéniable. En plus de
Ça.
ça, les patients sont demandeurs. La plupart du temps, quand tu discutes avec un patient, la première chose qu'il va te demander, c'est des étirements. Sur un patient qui a une paralysie cérébrale. Moi, j'ai pas mal de jeunes qui ont des paralysies cérébrales. Je leur demande, tu veux faire quoi aujourd'hui? Je leur fais faire plein d'activités, hein. Ça peut être des exercices, des parcours de marche, etc. Mais le premier truc qu'ils vont me demander, c'est fais-moi des étirements, parce qu'en fait, ça me fait du bien. Je peux pas faire autrement. J'ai un patient qui est tétra, qui peut pas s'auto-étirer, et si je l'étire pas pendant 2 semaines, quand il part en vacances, il est raide comme un bout de bois, en fait. Et en fait, lui, sur sa qualité de vie, c'est essentiel que je l'étire. Et il ne pourrait pas s'en passer. Donc, il aura besoin, malheureusement, d'étirements à vie. Alors, peut-être que dans quelques années, il y aura des possibilités instrumentales d'aider les patients à s'étirer pour ceux qui n'ont pas suffisamment de force. Mais en fait, tu vois, à l'échelle individuelle, il y a plein de patients pour lesquels c'est indispensable et ils ne pourraient pas s'en passer, quoi.
Ouais, et puis là, il y a un distinguo qu'il faut faire qui est vachement important à faire. Alors, d'abord, par rapport à ce que tu as dit avant, c'est sûr que plus la population est hétérogène et qu'en plus, dans les études, les nombres sont petits, moins tu as de chances de trouver quelque effet qui soit. De toute façon, même s'il y a un truc qui pourrait aider certaines personnes, tu noies le truc, c'est impossible, ça c'est sûr. Et après, tu vois, par rapport à ce que tu dis, on pourrait interpréter, c'est pareil, on pourrait faire un lien en se disant, ouais, mais attends. C'est pas parce que moi je le fais. Moi, ce que tu as dit au départ, ça me fait penser au massage. Mais c'est pas pareil. Parce que tu vois, on pourrait dire, bah oui, moi des massages j'en fais tout le temps. Il y a plein de patients qui le demandent. Mais du coup, enfin, ça n'a pas été démontré fortement que ça va avoir un impact sur l'évolution du traitement. Sauf qu'on ne parle pas des mêmes problématiques. C'est-à-dire que là, on va dire, ouais, ok, ça peut donner du confort, des qualités de vie aux gens, etc. Par contre, ça augmente pas la probabilité qu'ils guérissent en pathologie musculo-squelettique, qu'ils sortent d'un épisode de lombalgie ou je sais pas quoi, ou pas fortement. Mais là, on n'est pas dans le même contexte. C'est-à-dire, je préfère faire attention à ça parce que, voilà, voilà, par rapport à l'auditoire, peut-être qu'on peut facilement penser à
C'est
ça.
bien. C'est bien de faire le
Là, on
parallèle.
est sur... Ben non, mais ouais, mais là, on n'est pas dans le même contexte. Là, c'est des pathologies, ils vont pas guérir, en fait. Donc,
Exactement.
l'intérêt de la qualité de vie, l'intérêt de leur permettre et puis il y a un impact fonctionnel et qui est pas, c'est vraiment pas le même délire quoi. Donc je pense tu vois ce truc-là, ça pourrait être vite interprété. On se dit ouais, en train de nous dire bah oui, moi dans ma partie je vois les patients ils demandent que ça. Bah ouais, bah, c'est pareil avec des massages. Non non, là on n'est pas sur le même sujet, c'est pas la même dimension
Non,
et
c'est pas la même
clairement.
dimension. Et d'ailleurs, on fait même très attention. En fait, il y a plein de patients qui nous demandent des étirements, quasiment tous. Et je vais dire, on n'étire que seulement 20% des patients qu'on suit au cabinet. La plupart du temps, c'est que de l'actif. Donc, c'est juste une certaine population qui a de fortes rétractions ou de forts schémas qui ont de la spasticité, qui ne pourraient pas se passer de nous. Mais sinon, la plupart du temps, soit ils s'auto-étirent tout seuls, soit en fait, ils font suffisamment d'actifs et il n'y a pas besoin d'auto-étirement. Donc, c'est vraiment sur un type de population particulière. Et en plus de ça, nous, on n'utilise pas les étirements pour les étirements. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste des postures et puis après, c'est ciao, bonsoir, on se revoit la semaine prochaine. En fait, l'étirement, il est effectivement inutile s'il n'est pas associé à un exercice actif. En fait, l'étirement que tu vas réaliser sur un patient neuro, en fait, il va permettre d'augmenter l'amplitude articulaire sur un court temps, probablement l'équivalent du même temps que tu vas l'étirer. En moyenne, si je vais étirer, je sais pas, 5 minutes à un grand pectoral, bah, en gros, la rétraction, elle va être limitée. On va avoir une augmentation de l'amplitude articulaire pendant 5 minutes, parce qu'en fait, on casse les ponts actin-myosine pendant l'étirement. Et pendant ce moment-là, le patient va réaliser de l'actif. En fait, c'est ce qui va permettre de progresser dans le temps. C'est parce qu'on libère du coup une amplitude articulaire de manière importante qui va pouvoir renforcer les muscles qui sont parasitiques et donc progressivement augmenter ses capacités et sa force musculaire pour lutter contre les muscles qui sont hyperactifs ou rétractés. En fait, l'étirement seul, c'est vrai que c'est inutile, mais il faut l'associer à quelque chose d'actif. Et encore, pour l'instant, on ne parle pas de toxines botuliques.
Oui, après, c'est encore une autre histoire. Et du coup, bah, encore une fois, hein, tu m'as proposé de faire des parallèles, je vais continuer. Mais tu vois, c'est ces histoires. On pourrait dire le patient, il demande des étirements bah, juste parce que il a la flemme aujourd'hui, il a envie d'être passif, etc. Bah, non, non, c'est l'étirement qui va lui permettre de bouger, lui, il a constaté, etc. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais du massage, mais même de façon plus large, la thérapie manuelle, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est. Ouais, il y a de bonnes chances que si on fait que de la thérapie manuelle et rien derrière, bah, ça apporte pas énormément de choses aux patients dans un certain nombre de cas. Ou si ça marche, bah, ça marche sans doute chez des patients pour qui le problème il serait rentré dans l'ordre de toute manière. Mais par contre, avoir un patient qui ne peut pas faire un exercice, on fait une technique de thérapie manuelle. Et honnêtement, parfois ça peut être du massage. Hein. Une stimulation par du massage, juste soit pour détendre. Soit pour stimuler des muscles qui ont du mal, qui sont inhibés, qui ont du mal à s'activer, la personne derrière est capable de faire l'exercice, on la rend capable. Si, alors là, la petite différence en musculo-squelettique, c'est que si tu fais ta technique manuelle, le patient fait son exercice, en général, il y a de bonnes chances qu'en refaisant l'exercice chez lui, les bénéfices de la technique manuelle perdurent. Donc, du coup, parfois, ça peut être en one shot, on fait. Et après, l'actif, on arrive à le garder tout seul. Parfois, il faut reproduire. Mais en fait, c'est la même histoire. Et donc, toujours dans ces histoires un peu trop blanches ou noires, mais la majorité des
Tu
gens.
ouvres un cercle vertueux en fait en faisant ça.
Ouais, c'est ça.
C'est ça,
Mais la
tu ouvres une
majorité des gens, ils
porte.
sont en train de partir de cette dichotomie actif-passif, etc. Non, c'est à quel moment, c'est comme tu dis, quel patient, c'est quoi l'objectif derrière. Et c'est pas juste faire une technique pour une technique parce que j'ai appris que ça ou je sais pas trop quoi faire d'autre. Ouais, c'est vraiment une logique et ouais donc clairement, clairement. Et ça n'a pas été
Typiquement,
étudié comme
il y a des patients, je prends le cas d'une patiente que j'ai en ce moment, elle a une sclérose en plaques, c'est une jeune patiente, elle a une trentaine d'années, elle me dit, tu m'étires pas, je peux pas marcher, c'est impossible. En fait, on est obligé de commencer la séance par des étirements. Alors, hétéro-étirement ou auto-étirement, ça dépend ce qu'elle peut faire. Dans l'idéal, vaut mieux que ce soit de l'auto-étirement, puisque l'objectif, c'est qu'elle puisse le réaliser le plus possible. Mais si je ne l'étire pas avant la séance, en fait, elle va avoir un droit fémoral qui va se contracter de fou. Et elle va avoir un schéma en triple extension du membre inférieur. Et elle sera incapable de marcher. Ça va trop l'épuiser et elle pourra faire même pas deux pas, quoi. Alors que si on l'étire, la différence, elle est énorme. Et en gros, bah, elle va augmenter sa capacité de marche, elle va travailler son schéma, elle va travailler son système cardiovasculaire. Donc en fait, on ouvre finalement quelque chose de très vertueux. Et l'idée, bien sûr, c'est pas rendre le patient totalement dépendant de toi et de mettre en place un mécanisme d'auto-étirement le plus possible à la maison, puisque finalement, faire 20 minutes d'étirement en kiné dans la semaine, ça va pas changer grand-chose. Donc c'est pour ça que y a des auteurs qui ont parlé en fait des bénéfices des auto-étirements, mais genre 1 heure par jour, quoi. 1 heure par jour associée aussi à des exercices actifs. Et en fait, le fait de faire de la kiné 20 minutes par semaine, ça effectivement, ça n'a aucun effet, quoi. Donc je pense notamment à l'équipe de Jean-Michel Graciès qui a Créteil et toute son équipe, hein, Maud Pradine, qui ont énormément travaillé sur le sujet, sur l'impact en fait des auto-étirements associés à des exercices actifs. Et en plus de ça, ils ont comparé aussi avec de la toxine botulique, que le combo auto-étirement, exercice actif et toxine botulique, là, ça fonctionne. Là, c'est sûr, il y a des preuves que ça fonctionne bien sur une population particulière, qu'est le post-AVC. D'accord, ils ne se sont pas amusés à choisir des populations un peu trop hétérogènes. Et sur des populations aussi très chroniques. C'est ça qui est intéressant, c'est que même sur des lésions cérébrales ou des lésions médullaires, on aurait tendance à dire, bah voilà, les mécanismes de plasticité cérébrale s'arrêtent au bout d'un certain temps, on ne pourra plus avoir beaucoup d'effets. En fait, eux, quelques années après, ils ont des patients qui vont avoir des amputés articulaires bien meilleures, ils vont avoir comment dire, de l'utilisation fonctionnelle d'un membre supérieur ou d'un membre inférieur beaucoup plus importante, bah parce que le patient a mis en place les exercices d'auto-étirement tous les jours de manière régulière.
Ouais, il y a souvent ce questionnement quand même, tu sais, en neuro parfois où alors, bon, j'interprète, mais peut-être quand c'est pas ta pratique principale où tu tombes dans une routine où au bout d'un moment tu t'as l'impression qu'il se passe plus grand-chose, que tu progresses pas, et je me demande si tu vois, le fait de rester dans ce discours de ouais, de toute façon, vu que ça fait longtemps pour vous, il pourra pas y avoir de changement, c'est pas aussi une façon de se. Ah, comment dire, de se justifier que bah, si ça change pas plus, c'est pas de notre faute, tu vois. Enfin, de toute façon, on ne pourrait rien faire de plus. Alors, le but, c'est pas de se culpabiliser pour rien, mais ouais, moi, je me pose souvent les questions, tu vois. Encore une fois, hein, c'est pareil en musculo-squelettique, c'est je me pose souvent les questions du problème de dose où on va te dire que de toute façon, après tel problème, t'as une chance de récidiver. Tu gardes des déficits, etc. Mais sauf que des gens, si tu les renforces vraiment fort et
Fort.
suffisamment longtemps, bah, tu fais une grosse différence. Et ça, quand tu regardes dans les études, c'est pas fait. Là, dans la durée des interventions, il y a certaines études, il me semble que c'était vraiment pas long non plus. En termes de. Tu vois, là c'est la partie hein, moins de 6 mois, mais il y avait quand même des trucs, c'était quelques semaines. Et c'est ce que tu vois aussi sur des études sur du renforcement, où ils te font des études, ils évaluent une modalité de renforcement, mais l'étude, elle dure 4 semaines. Tu peux pas faire de la viande en
C'est
quatre
pas
semaines, enfin, je
suffisant.
veux dire.
C'est
Et
pas
donc,
suffisant.
non.
Exactement.
Et le souci, c'est que si tu prends pas le temps de regarder ça et de considérer ça, tu vas prendre le papier pour acquis, et parfois, tu te dis, mais comment ça peut être publié dans des journaux revus par les pairs? Enfin, à quel père ils ont demandé. Enfin, bon, bref, il y a des choses où parfois, ouais, il faut vraiment garder son esprit critique et.
C'est quand tu mets un petit pied dans la recherche que tu vois comment ça fonctionne. Et en fait, tu vois que déjà, parce que j'ai des étudiants qui ont fait un mémoire de recherche dans un laboratoire, hein, sur l'étirement excentrique dans le cadre du post-AVC. Donc justement, on était parti un peu de ce constat, les étirements, ça sert à rien. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas associer en fait de l'étirement actif avec une composante d'excentrique sur les muscles spastiques? Et en fait, tu vois comment l'étude elle a été faite. Alors ils ont fait ce qu'ils ont pu, tu vois, mais déjà le recrutement c'est compliqué parce que du coup, bah, c'est des patients qui ont souvent du handicap. Donc pour venir au laboratoire, c'est compliqué. Pour le suivi, c'est compliqué. Tu peux pas t'assurer que le patient va bien réaliser forcément les auto-exercices à la maison. En fait, du coup, il y a plein de paramètres qui font que un protocole, c'est très difficile à mettre en place, surtout avec des humains et surtout avec des humains qui ont une fragilité. Et je pense même je sors du sujet là des maladies pyramidales, mais dans le cas des Parkinson ou des pathologies dégénératives, en fait, bah, il y a plein de patients qui ont des événements indésirables. Ils vont avoir, par exemple, je sais pas, des infections urinaires ou ils vont chuter. Et donc, en fait, il y a plein d'études qui vont raccourcir les protocoles d'intervention pour limiter finalement au maximum l'effet perdu de vue. Mais au final, c'est pas suffisant. Donc ça pose question sur comment on pourrait faire en sorte que les études puissent être faites sur le long cours et qu'on puisse voir vraiment les effets à long terme et sur une peut-être population beaucoup plus large. Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais en fait quand tu vois les études, tu vois que c'est pas évident à mettre en place et qu'ils font ce qu'ils peuvent et que c'est pour ça que parfois on n'a pas toujours les résultats en rapport avec ce qu'on voit en pratique.
Ouais, et puis c'est important ce que tu dis là, dans le sens où le but c'est pas de dire mais qu'est-ce qu'ils font les chercheurs, enfin, c'est parce que parfois tu te dis mais c'est pas possible, ou tu même sur des choix méthodologiques où tu te dis ben bah, attends, le pauvre score de base pour évaluer la qualité d'une étude, t'as 10 items, ils en ont coché que 5, mais ils sont bêtes, ils connaissent pas ce truc, mais si, ils les connaissent, mais juste en fait ils font, et comme tu dis, ils font comme ils peuvent, il y a des
C'est
contraintes
la réalité du terrain.
logistique machin, de financière, enfin tout ce qu'on veut, et qui sont énormes. Et c'est là, je pense, c'est important de se rappeler que c'est pareil, je pense que ça change aussi, mais peut-être pas très vite. Les données qu'on a, en fait, la science, c'est pas la vérité. Là, c'est les meilleures données qu'on a à disposition actuellement. Voilà. Et parfois, les meilleures données qu'on a à disposition actuellement, elles sont bancales, hein. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, ça veut juste dire que il faut, bah, comme tu as fait là pour cet article-là, aller voir avec notre expertise clinique qui est dans la pratique EBP, avoir un œil critique. Donc oui, il y a la méthodo, les connaissances, etc. Mais aussi par rapport à notre pratique, en se disant, mais ça colle pas. Et alors se méfier des biais qu'on pourrait avoir, bien sûr, mais là, clairement, ça colle pas. Comprendre et se dire, bah, ok. Pour l'instant, les preuves qu'on a, elles sont pas suffisantes. Et ça, alors ça, tu vois, c'est bizarre, mais je suis en train de me dire, je sais même pas si elle met ça à la fin de son article. Alors moi, j'ai eu la version abrégée, on s'est rendu compte de ça tout à l'heure. Mais tu vois, souvent dans les études, c'est ce qu'ils disent à la fin, on n'a pas assez, plus qu'au crâne, on n'a pas assez de données de qualité pour conclure, machin.
Souvent,
Je me
ils se
rappelle
mouillent pas
mon
trop,
collègue,
quoi.
mais je pas ça.
Voilà.
Ben ouais, mais bon, après, c'est la vérité. En gros, là, on te donne une conclusion. Mais basé sur des trucs finalement, bah, ils sont pas aussi solides qu'on aimerait, et c'est la réalité des choses. Et donc du coup, on vous apporte le meilleur de ce qu'on sait. Bon là, avec plein de problèmes, hein, ok, hein, là c'est sûr que là, autant d'hétérogénéité, c'est quand même un bazar. Mais bon, on vous apporte ça, et c'est à vous d'arriver à avoir le recul, de savoir ce que vous allez en faire. En fait, c'est pas on est en train de vous amener la vérité, et puis il faut suivre ça, et puis c'est fini quoi. Mais bon, bref, c'est important d'avoir ce recul-là, ouais.
Ah ouais, en plus, bon, cet article, c'est vrai que souvent, à Cochrane, comme tu dis, souvent, ils sont assez mesurés dans leurs conclusions. Elle est assez sûre d'elle. Elle dit, bon, en tout cas, dans les pathologies non neurologiques, elle est sûre d'elle. Effectivement, elle voit que ça sert à rien. Elle conclut qu'il y a un niveau de preuve assez élevé que ça sert à rien. Et sur les maladies neuro, elle a un peu plus, tu vois, elle est un peu moins sûre d'elle, mais elle conclut quand même que, ouais, il semblerait que ça s'oriente vers une efficacité. Mais parce que elle a comparé probablement des techniques d'étirement simples. Et effectivement, c'est intéressant d'aller voir l'article pour un peu comprendre, rentrer un peu plus dans le détail et voir, OK, donc l'étirement tout seul, il a l'air de pas fonctionner. En tout cas, comment elle l'a évalué et comment elle l'a comparé avec les autres articles. Mais l'étirement sous d'autres paramètres, associé à d'autres paramètres, bah, peut-être que ça pourrait être intéressant de voir comment ça fonctionne, quoi.
Tu vois, il y a un truc, en ce moment, je fais un peu des reels là-dessus sur Insta, mais de temps en temps, j'ai suivi des cours sur la psychologie positive il n'y a pas longtemps, et en fait, il y a vraiment un shift dans la façon de voir les choses, d'interpréter les choses, où le gars qui faisait le cours, il disait que on est piégé par le fait d'étudier la moyenne, tu vois. Là, en
Ah oui.
gros, on essaie d'étudier la moyenne, alors que, tu vois, là, dans les études, si je me rappelle bien, il y en avait une qui montrait vraiment un effet qui semblait être intéressant, autour de schéma. Et en fait, l'idée, ce serait peut-être de se dire, mais attends, c'est quoi les caractéristiques des gens pour qui ça marche bien? En fait, de s'intéresser à ce qui marche, au lieu de se dire, bah, en moyenne, ça marche pas, de se dire, mais attends, il y a des gens pour qui ça marche, du coup, mais c'est quoi leurs caractéristiques? Comment on pourrait s'inspirer de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ces gens-là? Alors, soit c'est l'intervention, parce que là, vu que c'est plein d'études différentes, soit c'est le type d'intervention, soit c'est la population, soit pour le même type d'intervention, pour une population plus restreinte, si en moyenne t'as pas trop d'effets, mais que t'as des gens qui s'en sortent vachement bien, mais c'est quoi les caractéristiques de ces gens-là? Parce que
Oui,
comment
c'est
on pourrait
important.
s'appuyer là-dessus? Tu vois? Et c'est
D'accord.
enfin, c'est un peu ce qui vient. C'est un peu là où on se dit, bah oui, les gens en bonne santé sont beaucoup plus faciles à soigner. Du coup, bah, c'est quoi? Être en bonne santé, bah, c'est faire de l'activité physique, c'est avoir un bon sommeil, etc. Bah, ok, bah, autant promouvoir ça. Et tu vois, dans le fait de faire évoluer notre rôle, justement, sur le fait de promouvoir une bonne santé, d'accompagner les gens là-dedans, développer des connaissances sur le sommeil, etc., bah, il y a une logique et on y va vraiment. On n'a plus l'impression de plus faire de la kiné. Bon, je m'éloigne un peu, mais tu sais, parfois, c'est un peu ça aussi. Les gens, ils disent, bah, mais moi, j'ai pas appris ça à l'école, donc ça, c'est pas de la kiné de parler du sommeil avec mes patients. Ou parler du stress. Bah, tu vois, donc c'est vraiment
Oui, bien
cette
sûr.
histoire de s'intéresser qu'est-ce qui marche, en fait, dans quel cas ça marche, et concentrons-nous là-dessus, au lieu de nous dire, ah oh ben non, il n'y a rien qui marche, et on en reste là, on est nul, on sert à rien, on rembourse plus rien, enfin, c'est ouais, c'est
C'est ça.
dommage.
C'est bah, c'est comme la fameuse étude sur la, enfin, la fameuse recommandation HAS sur la bronchiolite qui a fait énormément débat et du coup après les effets
Oui.
après sont énormes quoi. Donc je pense qu'il faut le message qu'il faudrait vraiment transmettre c'est ayons l'esprit critique et allons chercher vraiment dans le détail. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te semble dans ta pratique qui te semble voilà un peu fonctionner ou et puis que tu vois un article où tu te dis non, c'est sûr que ça fonctionne pas. Bah ok, mais pourquoi? Va chercher plus loin, quoi. Va regarder en fait pourquoi et essaie de comprendre. Juste prends pas l'article tel qu'il est et ok, c'est quelque chose d'acquis, comme on disait tout à l'heure, quoi.
Et parfois, c'est juste tes biais. Hein. Parfois, tu vas te rendre compte que bah, non, finalement, ça marche parce que de toute façon, le patient, il devait aller bien. Et parce qu'il est en bonne santé, parce qu'il a plein d'autres facteurs, etc. Mais par contre, tu l'as dans les yeux et tu te dis, bah, c'est important d'appuyer là-dessus. Voilà. Au lieu de se dire, ce que je fais, ça sert à rien. Mais ouais. Et ça remet quand même pas mal en perspective. Enfin, je sais pas, quand est-ce qu'il va y avoir une évolution, révolution méthodologique par rapport à cette considération-là, mais c'est pas possible, ça va venir. Enfin, il y a déjà des champs où ils y sont allés. Et ça remet en question quand même pas mal de choses au niveau méthodo, hein, de recherche,
Ouais,
mais bon.
mais complètement, complètement. Et ouais, de base, enfin quand même pour revenir quand même à la neuro et à ce qui est recommandé, en fait, oui, de toute façon, un patient qui a une maladie neurologique, il faut lui soumettre en fait de la contrainte mécanique, il faut lui soumettre de l'actif énormément d'intensité en fait pour créer des changements neuroplastiques. Effectivement, c'est ce qui fonctionne. Mais c'est difficile, en fait, la mise en place pour un patient qui a par exemple, jamais fait d'activité physique de sa vie, qui a jamais mis en place, en fait, d'exercice. Et en gros, tu vas lui demander un effort conséquent, important, du jour au lendemain. Tu dis, bah voilà, comment dire, la littérature dit que si vous voulez faire des progrès, bah, faut que vous fassiez 1 heure de vélo par jour, plus 1 heure de marche, plus 50 squats. Ouais, ça va être difficile à mettre en place, quoi. Donc,
J'imagine,
c'est
ouais.
pour
Le
ça
patient
que.
qui se dit déjà avant, j'y arrivais pas, ça m'aurait paru impossible. Maintenant, je viens de faire un AVC, je me sens vraiment diminué, tu me demandes
Tu
de faire
crois que
ça
je vais y arriver?
aujourd'hui.
Tu crois que tu me sens capable, quoi. Donc c'est pour ça que je reviens sur l'effet de l'utilisation de l'étirement, en fait, comme une porte d'entrée sur, après, du travail fonctionnel, que je trouve, en fait, indispensable, en fait, pour pouvoir mettre en place et mettre en condition un patient qui va devoir, en fait, s'entraîner comme un sportif de haut niveau face à sa maladie, en fait. Il va devoir se dépasser, il va devoir aller plus loin que ce qu'il a jamais fait, en fait. Et ça, c'est très difficile. Au début des séances, à faire comprendre. Mais on y arrive, ça fonctionne, les patients finissent par comprendre. Mais aussi, du coup, bah, on pourra en discuter, mais je me pose la question sur les bénéfices du renforcement musculaire à intensité assez importante, avec des résistances et voire même des notions de contraction différentes sur des amplitudes musculaires. Excentrique. Enfin, il y a, voilà, ça commence à venir. Parce que si tu veux, avant, on disait surtout ne pas renforcer un muscle spastique. T'entends encore hein, des MPR qui te disent si tu renforces un muscle spastique, genre par exemple un gastrocnémien ou un soléaire, mais vous êtes contre-productif, vous allez renforcer un muscle qui est déjà hypertonique. Et en fait, c'est basé sur rien. C'est basé sur rien. C'est parce qu'en fait, dans l'idée générale, un muscle spastique, il est fort. Alors que non. Un muscle
Ouais.
spastique, il n'est pas fort. En fait, il a une exagération de contraction. Il a un potentiel d'exagération de contraction musculaire très importante. Il est hypersensible, faut le comprendre comme ça. Et il va se contracter très rapidement et très fort sur un geste fonctionnel, sur une marche, etc. Mais quand tu le regardes à l'échographie, bah, le muscle, il est dans un état pitoyable. Il n'a pas des bonnes fibres contractiles. Voilà, il peut pas développer normalement. En fait.
Ouais,
Donc
totalement.
c'est pour ça que ça pourrait être intéressant, pas seulement que de l'étirer, mais aussi de le renforcer dans une condition d'étirement pour limiter ces mécanismes de co-contraction. Et il y a une étude notamment qui a été faite par Serge Mesure, qui est un kiné qui a beaucoup travaillé avec les patients neuro dans le sud de la France, sur 37 patients post-AVC. Donc il a fait faire trois séries de 5 répétitions selon l'ARM en condition de renforcement excentrique. Et en fait, bah, il observe une augmentation en fait, de la force du muscle parasitique, mais aussi du muscle spastique. Donc en fait, c'est bénéfique. Donc on croit qu'on va augmenter la spasticité, mais en fait non. Peut-être sur l'effet, effectivement, tu vas faire du renforcement musculaire sur un patient qui est spastique, il va dire, ah, j'ai des spasmes, je me sens pas bien, je sens que je suis plus raide. Oui, mais en fait, à distance, finalement, tu augmentes sa capacité de contractilité musculaire et donc tu diminues aussi sa capacité d'hyperactivité.
Ouais, puis enfin, je veux dire, si tu fais un travail musculaire, ton muscle il va le fatiguer après. Donc du coup, tout ça à penser à suramplifier, c'est juste normal. Enfin, j'ai comme du renfort avec une personne qui a des courbatures, hein, et il fonctionne moins
Exactement.
bien, mais ça c'est normal. Mais et tu vois, moi ça me fait aussi penser, parce que ce que tu dis, moi je l'ai appris, hein. Alors bon, voilà, je suis pas formé de l'an dernier, mais je l'ai appris, et ça me fait penser à ces schémas de. Oui, des gens ils ont des épaules en avant parce qu'ils ont un petit pectoral trop court, ou je sais pas quoi. Déséquilibre musculaire, et en fait, des muscles, enfin, là aujourd'hui, quand même, ce qui semble bien établi, c'est que un muscle est trop faible, il fatigue facilement. S'il fatigue facilement, eh bien, il a tendance à avoir du mal à se relâcher et à adopter une position raccourcie. Et donc, du coup, si on essaie de l'étirer, ben, on va pas le rendre plus fort, en fait, il va juste continuer son truc. Mais si on renforce, ben, il va moins fatiguer, il va être moins en position raccourcie, et ça va mieux aller. Mais c'est vrai que, voilà,
C'est le même
et c'est.
mécanisme.
C'est quand même, enfin, ça, tu vois, ça paraît logique parce que maintenant on comprend ça, on a vu aussi les impacts, on a testé, on a vu vraiment les changements que ça donne chez les patients. Mais au départ, c'est une logique qui est assez, comment dire, assez directe, assez séduisante, et tu peux facilement s'enfermer là-dedans pendant longtemps, hein.
Ah oui.
S'enfermer et. Ouais.
Une logique, on étire un muscle parce qu'il est rétracté, quoi.
Ouais,
Parce qu'il
parce
est
qu'il a.
petit, il est raccourci, mais en fait, tu vas jouer sur l'élastique, mais tu ne joueras pas sur la qualité en fait musculaire, quoi, c'est tout.
Oui, et puis tu
Et
joues
ça
pas
reviendra.
sur les mécanismes de protection
Ouais.
neuromusculaire. En fait, tu sais, tu penses juste au truc, mais tu
Mécanique.
décorèles ce qui se passe au niveau neurologique, en fait.
C'est ça.
Ouais. Bah, c'est bien d'avoir avancé là-dessus. Enfin,
Ben ouais,
tout.
après, sur l'excentrique et le renforcement musculaire sur les muscles spastiques, on est au début et ça fait un moment que, enfin, on en parle entre nous, hein, entre kiné neuro, mais
D'accord.
j'ai l'impression que c'est un peu difficile en fait à mettre en place parce que faut changer les concepts de certains chercheurs ou certains médecins qui voudraient participer à la recherche. Et donc j'encourage vraiment, si vous avez des idées d'études, à aller dans ce champ-là, parce que, en tout cas, dans la clinique, moi je vois des effets sur plusieurs patients, vraiment quand on augmente la charge musculaire en condition d'étirement. Voilà, c'est assez chouette. Mais il y a trop peu d'études pour l'instant qui sont sorties, donc faut vraiment être mesuré hein, sur mes propos. Mais voilà, je pense qu'à mon avis, on va aller de plus en plus vers ça et de moins en moins, effectivement, vers juste, comme on disait, l'étirement passif et c'est tout, quoi, et basta, quoi. Juste remettre, en fait, dans un processus de contraction neuromusculaire des patients. Et au-delà de ça, en fait, il faut aussi réfléchir au fait que même le renforcement musculaire simple, je pense pas que ça fonctionne. Si tu fais que un patient post-AVC, tu décides de faire que du renforcement musculaire, ben en fait, ça fonctionnera pas parce que il y a aussi la notion de fonction. Et donc, si tu n'associes pas le fonctionnel derrière, donc de la marche ou de monter l'escalier ou des choses qui vont reprogrammer finalement un geste fonctionnel, ben, tu n'auras pas d'effet non plus. Donc, quelque part, il faudrait qu'il y ait peut-être des articles qui traitent du renforcement excentrique, pardon, dans un contexte fonctionnel. Voilà, tout est un. Je pense que ça peut être des belles
Clairement,
perspectives.
clairement. Tu sais, moi je me pose pas mal de questions en ce moment de. Et ça a peut-être été fait, j'ai pas été chercher, mais du renforcement en mode excentrique et en course externe. Et potentiellement, j'essaie de réfléchir à des exercices en chaîne fermée ou exercices fonctionnels pour voir si ça pourrait avoir un impact sur prévenir des blessures en sport, par exemple, tu vois. Vraiment, parce que c'est souvent dans des situations comme ça, en fait, on se fait mal, et
Ah oui,
il y a une histoire de
en
contrôle,
condition.
de force, etc. Enfin, tu vois, ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, quand tu parles de monter les escaliers. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un patient, le charger avec un truc, et lui faire descendre une marche d'escalier en arrière, et lui faire faire de l'excentrique comme ça, tu vois, il descend avec un pied, il descend avec l'autre pied, il descend avec un pied, il descend avec l'autre pied, et tu fais de l'excentrique, c'est un geste fonctionnel. C'est une amplitude parce que là, tu vas pas forcément en course externe. Enfin, peut-être si tu peux, c'est cool. Mais si au moment, tu peux lui faire faire son renforcement dans l'amplitude dont il a besoin fonctionnellement, ben, il n'y a pas besoin de. Enfin, bien sûr, on peut faire des choses plus sophistiquées, mais rien que ça déjà, ben, pourquoi pas, en
C'est
fait.
transposable. C'est transposable en fait. Et c'est ça que je pense qui est indispensable sur les futures études à venir. C'est est-ce que ce qui est réalisé, c'est transposable à une situation économique, enfin écologique, pardon, du patient dans sa vie réelle, quoi, dans sa fonction. Et en tout cas, dans les maladies neurologiques, c'est indispensable, puisque du coup, tous tes schémas moteurs, en fait, ils sont déjà pré-ancrés. Donc, si tu les stimules en condition de renforcement, il y aurait, je pense, tendance à ce que ça marche.
Facilite, ouais, tu facilites, tu retrouves des
Facilite.
choses comme ça. Intéressant, intéressant tout ça. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu disais aussi sur le fait que il faut qu'il y ait des chercheurs qui y aillent. Et la difficulté, c'est quand tu as, ben, alors c'est pas absolu, mais peut-être que quand tu as une personne qui s'est engagée dans la recherche avec une certaine vision des choses, ben, peut-être qu'il va aller la confirmer tout au long de sa carrière. Et. Depuis tout à l'heure, j'ai la fameuse situation de les plus gros progrès en recherche font avec les enterrements. C'est cette espèce de truc où tant t'as un chef de service qui oblige toutes les personnes de son département à étudier ça comme ça, bah, ça change pas. Le jour où il part à la retraite, bah, t'en as qui avaient des idées nouvelles et qui d'un coup, hop, ils prennent le pouvoir, on va dire, et paf, ils ont mis l'argent, les efforts dans ce truc-là. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, ça ralentit vachement le process parce que t'imagines une personne qui, comme toi ou comme nous tous, en pratique, on voit des choses qui nous semblent prometteuses, on se dit, bah, est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Est-ce que vraiment ça peut marcher? Il y aurait besoin de l'étudier. Bah, avant d'avoir les moyens ou avant de tomber sur une personne qui a le contexte pour le faire et qui a, en plus, c'est que de la recherche, il n'y aura pas forcément notre expérience à nous, donc le niveau de production, enfin, voilà, de faire ces ponts-là. Après, il y a quand même des chercheurs qui sont vraiment intéressés par ça. J'avais fait un épisode sur le focus attentionnel il y a quelques temps avec une chercheuse là, à Marseille et qui m'avait vraiment dit ou qui avait dit pendant l'épisode si vous les cliniciens vous êtes intéressés faites-nous signe parce que dans ces idées-là ça nous intéresse nous d'aller chercher de nouvelles choses donc voilà ça existe mais ce qui est terrible c'est des affaires d'opportunités et ça ouais, et ça prend du temps et c'est vrai ouais.
Et
Mais
oui,
bon.
et puis il suffit que tu tombes sur un chercheur qui a finalement jamais fait de clinique, qui décide de faire sa carrière dans de la recherche et il a toujours connu que la recherche. Alors certes, il sera un très bon méthodologiste, il sera très bien mené ses protocoles de recherche, mais du coup tu casses en fait l'aspect curiosité, possibilité, vision clinique que nous cliniciens on peut avoir. Donc je pense qu'il faudrait, ça existe hein, des commissions hein, souvent des commissions pour pouvoir valider ou pas un projet avec un clinicien dedans. Je sais que ça existe déjà, mais peut-être qu'il faudrait le démocratiser plus. Et plus en fait, on revient toujours au même sujet, mais échanger en fait entre cliniciens et chercheurs, soit sous forme universitaire, soit sous forme voilà, de congrès qu'on peut voir dans tout le domaine de la kiné. Mais c'est indispensable de pas cliver, on va dire, ces deux métiers.
Oui, c'est censé l'un, enfin l'un est censé servir l'autre pour faire avancer tout le monde en fait. Ouais,
C'est top.
c'est carrément. Donc, ouais, donc vraiment, c'est cette conclusion là, de l'article très rapide et toutes ces difficultés méthodologiques, etc. L'importance de prendre du recul, d'analyser les choses, l'importance de vérifier par rapport à ce qu'on voit, par rapport à notre compréhension des choses, faire des liens et puis d'aller chercher plus loin ce que tu as fait. Tu t'es pas arrêté à cet article-là, tu es allé plus loin. Quand tu as vérifié ça, tu es allé plus loin, tu as cherché d'autres choses, tu as trouvé d'autres choses. Tu mets en place. C'est ça qui est terrible aussi, que ça aurait pu très bien. Enfin, il y a des personnes qui peuvent se dire, bon, mais j'arrête mon plaire, en fait.
J'arrête tout, quoi. J'ai la sacro-sainte Bible qui me dit la Cochrane, les étirements fonctionnent pas, quoi. J'arrête tout, quoi. Et donc tu te démoralises. C'est un peu. Tu dis, punaise, j'ai fait un traitement qui fonctionne pas depuis des années. Je me suis un petit peu usée physiquement, hein, parce que c'est physique. Hein. Non, je pense qu'il faut aller dans le détail, il faut aller plus loin, il faut avoir vraiment l'esprit critique.
Ouais, et puis du coup, pas s'arrêter à ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, ça pourrait être qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, et puis ça peut être qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Qu'est-ce que. Alors après, oui, il peut peut-être y avoir des causes perdues, à peut-être pas insister trop longtemps dans une voie sans issue. Mais là, non, il y a trop d'indices. Et ouais. Et du coup, c'est cette approche-là de. Parce que le but de l'article, quand même, c'était l'impact sur les rétractions. C'était ça. Et donc, ben là, comme on l'a amené, ces rétractions qui sont gênantes d'un point de vue fonctionnel pour les patients, et puis plus tard, d'un point de vue même nursing, enfin, déjà voilà, hygiène du corps, etc., ça peut vraiment mettre en difficulté. Et donc, du coup, là, ce que tu dis, c'est ben, il y a quelques données un petit peu sur l'intérêt de l'excentrique là-dessus, mais pas assez.
Exactement.
Et ça Et toi, du coup, toi en pratique là, comment tu t'empares de tout ça en fait? Comment tu qu'est-ce
Bah,
que tu arrives à faire?
c'est que du coup l'étirement il est à utiliser. Pour moi, il faut pas non plus jeter à la poubelle, mais il faut l'utiliser de manière intelligente, en associant quelque chose de fonctionnel, donc du travail actif intensif. Hein, que ça, c'est vraiment ce qui est recommandé dans la prise en charge des patients neurologiques, donc aux alentours de 70-80% de la fréquence cardiaque pour stimuler les mécanismes neuroplastiques, et aussi du renforcement musculaire pour en fait changer histologiquement en fait le muscle qui est rétracté, mais que l'étirement est une voie d'entrée pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir faire tout ça d'un point de vue d'amplitude. Le patient n'aura pas suffisamment les amplitudes, on va dire, à court terme pour pouvoir réaliser tous les exercices que je viens de citer.
Ouais.
Et
Et
que,
donc après,
voilà,
ouais, à
faut être
partir de là,
prudent.
pardon, excuse-moi, en fait là je viens de te faire répéter un truc que tu avais déjà dit parce que j'ai mal formulé ma question. Comment toi tu si c'est le cas, hein, comment toi tu mets en place plus concrètement l'aspect se servir de l'excentrique pour cette problématique-là?
Par rapport à l'étirement, tu veux dire?
Ben,
Comment
par rapport
on met en place l'excentrique?
Ouais, pour ces patients-là, est-ce que c'est pour prévenir déjà la rétraction? Est-ce que c'est pour la minimiser, enfin, l'améliorer? Est-ce que, enfin, sans doute c'est
Oui, bien
fonctionnel
sûr.
aussi,
Bah, bien sûr, quoi qu'il
mais.
arrive, la contraction excentrique, elle a, enfin, en tout cas pour mes patients que je fais actuellement, elle a des effets. Sur la qualité de l'amplitude articulaire, mais ça va pas, c'est pas en 4 semaines qu'on verra des résultats. Il faut que le patient réalise des auto-exercices régulièrement, sinon ça fonctionnera pas. Puisqu'en plus de ça, comme c'est des patients qui ont un handicap, c'est souvent difficile pour eux du coup de se bouger, comment dire, de se mettre en route, quoi. Donc il faut réfléchir à des changements intrinsèque de vie, de quotidien, mettre en place une gymnastique quotidienne d'auto-exercice. Et oui, l'excentrique a, je pense, de belles heures devant lui. Voilà, c'est à mettre en place.
T'as des exemples où tu arrives à le faire sur certains groupes musculaires, un exercice que des patients arrivent à reproduire chez eux, ou alors pas tous, hein, bien sûr, mais certains, t'as des exemples à nous proposer? Enfin, au
Oui,
moins
je pense par exemple, j'ai un exercice que j'aime bien faire, c'est le pont fessier sur mes patients qui ont des hyperactivités au niveau du droit fémoral.
Ok.
Et pont fessier chargé. Et en fait, sur certains patients, je vais voir un effet immédiat sur la qualité de la marche. Parce que
OK.
le, du coup, le droit fémoral étant dans une position d'étirement et en plus avec une composante excentrique, du coup, je vais avoir des patients qui vont réussir à mieux lever la hanche ou mieux lever le genou et donc, du coup, qui vont augmenter leur amplitude de leur longueur de pas. Ça,
D'accord.
c'est un exercice que je conseille pas mal, qui est plutôt pas mal.
Ok. Et concrètement, alors quand tu dis chargé, c'est-à-dire ils tiennent un poids sur un bassin, par
Ouais,
exemple?
une kettlebell sur le bassin,
Ouais,
ça
ok.
fonctionne bien. Et on
Et
augmente
après?
progressivement la charge.
Et après, du coup, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils montent à deux pieds et ils freinent la descente, ou ils montent à deux pieds et ils freinent à un pied? C'est chaud, ça, peut-être, non?
Non, c'est un peu chaud ça.
Ben, non,
C'est un peu
c'est
chaud. Ils montent à deux pieds et ils freinent la descente. Et voire même, il faut essayer de souvent fixer le pied. Donc des fois, il faut l'attacher ou mettre des poids, parce que souvent le pied a avoir du mal à rester en place à cause des mécanismes d'hyperactivité ou de musculaire. Mais oui, donc voilà, c'est un bon exercice. Je le conseille.
Ok, bah merci, parce que effectivement ça donne un repère. Et t'as des patients du coup qui arrivent à le reproduire chez eux, ça, qui arrivent à trouver des conditions
J'ai même un patient qui a réussi à me faire une sorte de tapis où comment dire, il a fixé une sorte de fausse chaussure et donc il met son pied dedans. Et donc il a réussi à bricoler un truc et donc chez lui, il fait ses points fessiers en fait tout seul, il y arrive bien.
voilà.
Faudrait qu'ils soient à fond.
Ouais, mais ça, c'est top, ça. S'appuyer sur les ressources des patients, en plus ils s'investissent dans leurs trucs et tout, ils conçoivent des choses. Il faut pas les sous-estimer. Enfin, ouais, non, super.
Et quand
Ouais,
tu leur
merci pour
expliques,
les
en fait, ça paraît logique. Quand tu leur dis, bah voilà, votre muscle, dis oui, mais vous allez me le renforcer, il est déjà super fort. Mais oui, mais regardez, votre muscle, là, en fait, il faut imaginer comme une mauvaise cuisse de poulet, quoi. Il est mal conditionné. Il a été traumatisé à cause de l'AVC, etc. Donc, il faut faire en sorte qu'il soit de meilleure qualité. Donc, si vous le mettez dans telle ou telle condition avec telle ou telle charge, bah, en fait, finalement, vous avez augmenté sa qualité musculaire. Et donc, du coup, vous allez améliorer votre schéma de marche. Et bien expliquer, en fait, à quoi ça fonctionne, comment ça fonctionne et comment ça pourrait avoir des effets pour eux, quoi.
Ouais, merci de rappeler ça, ouais, c'est la base, hein. Et vous n'avez pas un patient qui va se mettre à bricoler des trucs s'il voit pas l'intérêt de le faire, donc
Ouais, voilà.
effectivement, la première étape, c'est qu'il va comprendre pourquoi, et après la deuxième étape, c'est de s'appuyer sur eux, en fait, c'est de pas forcément essayer de trouver toutes les solutions nous-mêmes, mais de s'appuyer sur, ben, en fait, vous, à quoi vous pensez, quoi? Effectivement, ça paraît compliqué à faire à la maison, mais comment vous pourriez le faire, en fait? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Qu'est-ce que vous pourriez trouver? Et les faire réfléchir. Et vraiment, on peut tellement être souvent surpris. Il y a des gens, parfois, on a de la chance, ils vont être, comment dire, ça va être dans leurs habitudes. De même si on ne les a pas fait réfléchir, ils vont trouver des trucs, il y en a comme ça. Et il y en a d'autres, ben, si on permet d'avoir ce temps-là avec nous pour vraiment réfléchir, qu'on les pousse en disant, mais vous, qu'est-ce que vous avez chez vous? Qui c'est qui pourrait vous aider, etc. Ils vont trouver des trucs. Si jamais on n'a pas pris le temps d'en parler, ils n'auraient jamais pensé. Et là, paf, on débloque des trucs et puis c'est parti. Mais vraiment s'appuyer sur l'expertise. C'est ça l'expertise du patient. C'est lui qui connaît sa
Exactement.
vie, c'est lui qui. Voilà, il a plein de compétences qu'on ne connaît pas forcément. Donc, non, c'est super cet exemple-là.
Ouais, c'est ça. Bah, juste, ouais, faut prendre ses forces. Voilà, lui, il est très bricoleur, donc il va réussir à le mettre en place et réfléchir avec lui à des solutions. Et puis aussi sur les stratégies de changement de comportement, bah, sur casser les croyances. Parce que sur les étirements, les patients, comme pour les massages il y a quelque temps, tu vois. En tout cas, en neuro, c'est très connu, quoi. Le neurologue va demander, ou le MPR, il faut que vous fassiez étirer 3 fois par semaine, c'est hyper important. Et donc, du coup, il va avoir cette énorme croyance qui va rester. Et donc, si mon kiné ne m'étire pas, si mon kiné ne pose pas ses mains sur moi, hein, comme tous les arguments qu'il peut y avoir actuellement sur le hands-off et le hands-on, bah, c'est un mauvais kiné, quoi. Et je vais changer de kiné parce que moi, j'ai vraiment besoin de mes étirements et j'ai besoin que de ça. Et c'est déjà arrivé, tu vois, qu'on ait des appels, une patiente, je lui explique, bah, voilà, vous allez être prise en charge au cabinet. Actuellement, on propose des groupes pour mettre en place les auto-étirements et créer de l'auto-rééducation. Ah non, non, moi, je veux que ce soit un kiné qui m'étire. Moi, je veux pas autre chose. Et la patiente, elle n'a pas voulu venir, tu vois, dès le départ. C'est dommage, elle se prive de potentiel progrès, juste parce que dans ses croyances, elle est sûre et certaine qu'il n'y a que les étirements qui lui font du bien.
Et ce qui est, en fait, ce qui est terrible, ce qui est important, selon moi, de réaliser, c'est que la personne, on est victime de ça, parce qu'elle ne l'a pas inventé toute seule. Si jamais elle pense ça, c'est soit que, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on lui a conseillé, on lui a dit, bah, si le kiné ne vous étire pas, ça ne sert à rien. Et du coup, bah, elle veut juste aller mieux, elle se dit, bah, ouais, si on ne me propose pas ça, et, bah, ça ne va pas, donc j'y vais pas. Soit elle a eu des prises en soins avec des pratiques où ça a toujours été comme ça, et là, elle ne peut pas envisager que ça soit différemment. Alors après, bien sûr, en fonction des patients, en ayant l'espace pour expliquer, etc., il y a des patients, on va les faire évoluer sur leur compréhension des choses. Mais vous avez des personnes, ben ça va être difficile. Et c'est important de réaliser que c'est pas de leur faute. Ils font pas ça juste parce qu'ils nous aiment pas pour nous embêter, en fait. C'est juste qu'ils ont été pardon, conditionnés à penser comme ça, en fait.
Conditionné énormément.
Mais oui. Et souvent, ça vient des soignants, quoi. Souvent, c'est notre faute au départ. Mais après, quelque part, voilà, on faisait aussi avec la compréhension qu'on avait à une certaine époque. Et voilà, donc, bon, le but, c'est pas de tirer sur qui que ce soit. Le but, c'est de se dire, les gens, qui ont ces croyances-là, ils sont victimes de ça, en fait. Parce que même si ça ne nous arrange pas, c'est pas pour nous casser les pieds, en fait. C'est juste. Enfin, moi, je partage ça parce que je sais que moi, ça m'aide à. Tu vois, ça t'aide à pas le prendre pour toi. Ça t'aide à pas le prendre de ah, il est chiant, il veut pas ou je sais pas quoi, trouver des raisons parce que tu sais que
Forcément,
ça va être
tu vois
galère.
ça comme un échec, quoi. Tu dis,
Bah
mais la littérature montre ça, je vous
oui.
le dis, c'est vrai, c'est prouvé, quoi. Mais ils s'en fichent.
Oui. Oui. Et de se dire, moi, si j'avais été à sa place, vécu la même chose, mais juste, je penserais pareil, quoi. Je penserais pareil. Donc, voilà, c'est pas juste un chieur. Enfin, ouais, pardon, mais ouais, de réaliser ça, comment dire, c'est tellement aidant. Tu vois, parce que dans cette situation-là, de se dire, bah ouais, clairement, moi, je penserais pareil que vous. Et même de le dire, moi, je le dis aux patients. Je dis, enfin, tu sais, qu'est-ce qui fait vous voyez ça comme ça et tout Et puis, t'expliques et tu dis, ben, bah, tu leur dis, bah oui, moi, si on m'avait dit ça, si j'avais vécu ça, mais je penserais juste comme vous, quoi. Et alors juste, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a testé d'autres choses, on a vu d'autres choses, et est-ce que vous aimeriez voir, ben, ce qu'on peut proposer d'autres, ou la façon dont on comprend aujourd'hui, et puis là, on peut avancer, et parfois, le patient, il aura du mal à le prendre, on pourra se dire, ben, je comprends vu son vécu qu'il n'arrive pas à le prendre, et du coup, ben, on va pas le prendre pour nous. Et du coup, ça fait qu'on peut aborder ça sereinement,
Dans un
pas
échange,
s'énerver pour rien,
ouais, constructif.
et ça passe plus facilement, et c'est plus agréable pour nous, pour tout le monde. Mais ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup changé la vie, là, de voir les choses
Dans
comme
ta
ça.
pratique, ouais.
Ouais,
Ouais.
j'hésite pas à le partager dès que j'ai l'occasion.
Ah ouais, moi c'est pareil. Au début, jeune diplômée, j'étais sûre de moi. Non, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis en fait, tu te retrouvais face à des échecs, des patients qui ne te suivaient pas sur ce que tu
C'est
voulais
normal.
faire, quoi. Et c'est vrai que maintenant, surtout sur des prises en charge très chroniques, moi je prends vraiment le temps de discuter avec eux, de leur expliquer, bah voilà, il y a tel exercice qu'on va vous proposer. Voilà, ça correspond à ça. Voilà comment les choses ont évolué. Juste que vous puissiez vous projeter en fait sur la rééducation. Voilà ce qu'on disait à l'époque, ce que certains médecins pensent encore. Voilà ce que la littérature montre. Juste, en fait, prendre le temps de discuter avec eux pour qu'ils puissent se projeter sur leur éducation, tout simplement. Et c'est pas parce que je vais pas vous étirer. D'ailleurs, souvent, ça se voit, hein, dans la salle de rééducation. Il y a des fois, il y a des patients que je vais étirer, des patients que je vais pas étirer du tout. Et plusieurs fois, j'ai eu des patients qui m'ont dit, mais pourquoi vous m'étirez pas? Pourquoi vous
Ouais,
m'étirez pas? Je comprends pas. Vous prenez pas le temps avec moi, alors qu'avec d'autres patients, vous allez les étirer, ça leur fait du bien. Mais oui, mais vous n'avez pas du tout la même pathologie et vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des étirements. Donc c'est juste parce que cette personne en a besoin. Vous, on s'attaque sur d'autres choses. Et comme voilà, comme c'est un plateau technique, ils se comparent énormément entre eux, tu vois, et ils comprennent pas. Et ça, c'est un truc auquel j'y pensais pas avant. Et finalement, maintenant. Quand je leur dis, bah voilà, là, vous inquiétez pas, je vais pas vous étirer, rassurez-vous, on va faire des choses qui correspondent à votre pathologie et en expliquant en amont. Et vous verrez des patients se faire étirer, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous ne vous sentez pas délaissé, quoi. Juste le fait que j'ai eu plusieurs retours de patients, bah, ça m'a permis d'un petit peu changer mon discours.
Bien sûr, bien sûr. Ben ouais, c'est ça, adapter sa pratique aussi à ses patients. Et ouais, et puis c'est. Puis limite, enfin, limite déjà, c'est merci à cette personne-là d'avoir posé la question. Parce que t'as des gens, ils vont se le dire, mais ils vont jamais t'en parler. Et du coup,
Il
il
faut
va y
venir
avoir
entre eux
un
dans la
malaise,
salle
il va y
d'attente.
avoir un.
Non,
Là, puis, ouais, déjà, entre eux, ils peuvent se monter le bourrichon. Et puis après, il peut y avoir une espèce de malaise où tu dis, mais il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à comprendre. Et le patient, il se sent pas. Déjà. Ben, merci de me poser la question. Et vraiment, si vous avez des questions comme ça, mais partagez-les, parce que il faut pas vous garder ces doutes-là dans votre tête, en fait. Et même à la limite, en gros, transformer ça en bonne nouvelle. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est applicable, mais moi, ce que je m'imagine, c'est de dire, vous savez, en fait, si lui, il a besoin d'étirement et vous, non, c'est probablement parce qu'il est dans une situation qui est moins favorable que la vôtre. Donc, c'est plutôt cool
argument que
de mettre
j'utilise
un moment
souvent.
pour vous.
C'est un argument que j'utilise souvent, effectivement.
Bah,
Ça
j'imagine.
fonctionne bien. Ouais.
Mais
C'est
tu
vrai que dans un
m'étonnes.
besoin technique où tu as des personnes qui ont un niveau de handicap très différent, ça peut être choquant.
Ah oui.
Là, cette semaine, tu vois, j'ai eu un monsieur qui a quasiment aucune séquelle de son AVC. Il m'a été envoyé probablement pour faire un petit bilan et remettre en place une routine d'exercice à faire quotidiennement. Il arrive dans le cabinet, il se dit oh punaise, mais moi, je n'ai pas tout ça, quoi. Et lui expliquer bah, écoutez, c'est normal, juste, soyez pas choqués. Mais tu vois, on oublie que nous, comme on est dedans, on oublie en fait à quel point on est
Pas
habitué au
normal.
handicap, on est habitué en fait à la maladie, et sur des
Pas
personnes ça
normal.
peut être extrêmement anxiogène. Donc,
Pas normal pour les
quoi, il y a
gens.
aussi les mécanismes de peur qui peuvent apparaître pour ce type de patient.
Ouais, c'est sûr. Tu vois, là, tu vois, t'as des. Ça me fait penser. Tu vas avoir des gens qui vont dire, bah ouais, ce patient-là, il va se dire, ah ben, enfin, il va être content, il va se dire, ouais, j'ai vachement de chance. Et puis, tu as des personnes qui vont se dire, qui vont dire, ah non, 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 les patients, ils se disent pas ça. Ils se disent, oh là, je risque peut-être d'évoluer comme ça, on m'a pas dit. Et
Ouais.
puis, tu vas avoir les deux camps qui vont dire, ouais, mais non, ils vont se dire ça. Ouais, non, non, en fait, il y a certains patients qui vont se dire un truc, il y en a d'autres qui vont se dire autre chose. Il faut juste vérifier ce que se dit le patient et adapter
Faut
son
qu'il comprend.
discours, en fait.
Et voilà,
Ouais,
faut qu'il comprend.
c'est sûr. Ouais, ça peut. Et puis, clairement, nous, on est tellement habitués, c'est un peu notre normal. On perd facilement de vue ça, hein. Un patient qui souffre et on sait que c'est pas grave et que ça va bien évoluer. On a tendance à prendre ça en se disant, bon, bah, c'est cool, bah, sauf que la personne, elle souffre, elle n'a pas de vécu, quoi. Hein. Elle ne sait pas que ça va aller mieux. Enfin, nous, on l'a vu plein de fois, mais elle n'a jamais vu. Hein. Donc, parfois,
Elle arrive pas à se
on peut
projeter.
trouver ça de façon. Enfin, on peut trouver ça déséquilibré par rapport à ce qu'il vit, alors, par rapport à ce qui va se passer. Mais juste, la personne, elle ne sait pas, en fait. Hein. Et ce recul-là, il est important à prendre. Ouais, merci de le rappeler. Ouais. Ok. Bah, écoute, intéressant tout ça. Il y avait. Je sais que tu avais. Tu avais prévu d'aborder certains points précis là. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé pour l'instant dans ce que tu avais prévu?
Ouais, je pense qu'on a fait le tour.
Ça me
Juste
semble, hein.
pas. Pour rappel, l'étirement, ok, mais en condition active et associée à du travail fonctionnel. Et attention, pas forcément inutile. Ça dépend des populations, ça dépend des situations et ça dépend des patients.
Ouais, bah, s'adapter, ça dépend. Prendre du recul, et probablement un truc qu'on n'a pas dit, c'est se donner des moyens d'évaluer l'impact de ce qu'on fait, en fait. Simplement parce que parfois, à l'échelle individuelle, même si on peut pas faire une étude dans son cabinet, alors on peut faire des trucs, mais admettons, bah, de garder en tête ces histoires de on fait un point, on met en place des choses, on refait un point, et puis du coup, ça nous dit si on va dans une direction qui est favorable, et même si parfois, il y a des facteurs externes qui ont de l'influence, bah, de toute façon, tant qu'on va dans le sens où c'est favorable, déjà on n'est pas en train de nuire aux patients. Même si ce n'est pas indépendant de nous, c'est quand même la première règle, hein, on sait qu'on n'est pas, même s'il est en train d'aller mieux pour d'autres raisons, on n'est pas en train de freiner ça. Donc déjà au moins on peut s'assurer de ça pour une personne. Et puis avec un peu de chance, on est vraiment en train de faire quelque chose de favorable. Et parfois il y a des manières d'évaluer qui sont quand même relativement convaincantes. Toi, ce que tu
Énorme.
dis, tu fais des étirements, la personne, elle peut faire, tu fais pas, elle peut pas faire, tu fais ça à plusieurs reprises, bon, au bout d'un moment, c'est réglé, enfin, t'as pas besoin de le faire 40 fois, c'est...
Et puis lui montrer aussi, parce que je reprends l'exemple des croyances, j'ai une patiente qui est dans ses croyances, et il faut faire que des étirements. Donc, ok, on va faire que ça. Donc on a fait que ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et puis on fait le bilan avant, le bilan après. Vous voyez, ça change rien. C'est-à-dire que tout ce que je vous fais que, enfin, le traitement que vous vouliez absolument faire, sur le plan là, factuel du bilan, il n'y a pas d'effet, quoi. Donc je vous propose de changer de stratégie et d'utiliser la stratégie que je pense être la bonne pour vous. Et effectivement, le bilan, il est indispensable. C'est pour ça que dans cet article, elle utilise par exemple la mobilité articulaire, la douleur, etc. C'est bien comme critère de jugement, mais pas oublier quand même que en tout cas en neuro, la base de la base, c'est quand même la fonction, quoi. Donc, est-ce que c'est bien d'avoir un bras qui a une amplitude articulaire un peu meilleure, mais est-ce que sur l'échelle de la marche ou sur l'échelle de certaines échelles de fonction, est-ce qu'il va augmenter ses capacités? Donc, pas oublier le bilan, indispensable. En contre-argument, en argument, c'est indispensable.
C'est marrant parce que là, tu as presque donné la même conclusion qu'elle, hein. En fait, les étirements tout seuls, ça sert à rien. En
Et ça sert
vrai.
à rien. Oui, ça sert à
Ouais.
rien.
En
Ça
fait,
sert à
t'as
rien. C'est
pas
juste qu'il y a des patients pour qui ça va être possible de faire de l'actif. Il y a des patients pour lesquels ça sera impossible.
bien
Donc, il
sûr.
faudra l'associer, je pense, à des patients qui sont très, très atteints à la verticalisation ou du travail au motomètre, par exemple. Donc, réfléchir en fait à comment potentialiser l'étirement sur un travail actif ou une posture ou quelque chose de fonctionnel
Exactement.
qui pourrait mettre en place.
Exactement. Donc au final, vous dites presque la même chose. L'étirement tout seul, sans réfléchir, ça sert à rien. Et sans associer à des choses.
Voilà.
Ouais, c'est toujours intéressant de trouver des points communs, parce que c'est rassurant de trouver ça. Mais ok, bah écoute, merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter?
Non, franchement, j'espère qu'on a été clair et que cet article, vous irez le lire. En tout cas, je vous encourage, il est intéressant à lire de toute façon. Et voilà, gardez l'esprit critique.
Et puis si vous faites comme moi, je vous mettrai un lien. Quand tu m'avais transmis les références de l'article, en fait, je suis allé dans PubMed et moi je suis tombé sur la version abrégée. Alors n'hésitez
Ah oui.
pas, parce que sur une revue Cochrane, ça pourrait être plus facile à lire. Et ça ne vous empêchera pas de voir les différents biais en méthodologie dont on a parlé. Bon, bien sûr, après, si vous voulez aller voir des études individuelles qui ont été inclus dans cette revue-là, ça vous prendra un peu plus de temps, mais ouais, soyez curieux, n'hésitez pas. Et puis, bah écoute, est-ce que tu as un projet en cours, un truc dont tu aimerais parler?
Justement, sur l'auto-rééducation, je pense que c'est fondamental. On va aller de plus en plus, en tout cas dans les maladies chroniques, vers la mise en place d'exercices à faire quotidiennement chez soi et avec des outils numériques. Donc moi, en ce moment, je suis sur une application d'exercice physique qui s'adresse aux patients atteints de maladies neurologiques rares. Et en fait, le principe de l'application, c'est que les patients pourront choisir en fonction de leur catégorie fonctionnelle des programmes qui leur sont adaptés. Donc, tu rentres dans l'application. Si par exemple, tu es en fauteuil roulant électrique ou tu es en fauteuil roulant manuel, tu as des programmes qui te sont adaptés. Et puis, tu as des programmes spéciaux en fonction de ta pathologie. Si tu as une ataxie, tu auras plus des exercices de coordination. Si tu es plutôt parétique, tu auras plutôt des exercices de renforcement musculaire. Et moi, je pense que c'est fondamental. Il faut laisser la possibilité à ces patients de. Comme nous, on a nos petits applis de sport, à ces patients d'avoir accès à ce type d'outils. Et voilà, j'espère que ça a fonctionné. Ça s'appelle Brainmove et ça sort dans un mois.
Cool. C'est ça, tu m'avais montré les images que tu m'avais montré pendant le tournage, c'était ça, hein?
Ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça.
Ouais, tu m'avais montré des vidéos que vous aviez fait, toi,
Qu'on avait tourné, ouais, avec des patients.
ok.
Bah,
Me
c'est des vrais
rappelle.
patients du coup sur la vidéo et ils se sont impliqués dans le tournage. Et donc du coup, quand t'es patient, tu peux t'identifier, c'est plus facile. C'est pas juste un coach sportif super costaud qui va te montrer les exercices.
Ouais,
C'est ça
vraiment
un peu la
intéressant.
plus-value de l'outil.
Ouais, vraiment intéressant, ouais. Bah, écoute, merci pour le partage. Et tu vois, moi, le truc auquel ça me fait penser, c'est. Moi, je suis le premier à fonctionner que sur des exercices à la maison, hein, parce que j'ai pas de plateau technique, hein. Je bosse dans un bureau de médecin. Et à réaliser que, tu vois, pour moi, du renforcement, je sais comment faire. Enfin, ça fait des années que. Dans les cours d'entretien motivationnel, tu sais, il y a plein d'ateliers où on demande aux gens de réfléchir à un changement, aux apprenants, aux participants, pour tester des outils, par exemple en binôme, de partager un changement qu'ils auraient aimé faire mais qu'ils n'ont pas encore fait. Tu vois. Et parfois dans les cours, il n'y a pas de bon nombre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un nombre impair et il faut faire des binômes. Dans ces cas-là, nous, en tant que formateurs, on rentre on participe au
Fait des
binôme.
binômes.
Et le sujet qui me vient, moi, quand j'ai cette question-là, c'est d'intégrer du renforcement musculaire dans ma pratique parce que je fais du sport très régulièrement, etc. Et je sais que c'est un facteur limitant et ça fait des années, à chaque fois que ça revient, du coup je ressors le sujet et je me dis, ah, j'ai toujours pas intégré ça. Et le truc qui est terrible, c'est que Je sais faire, tu vois, je sais ce qu'il faudrait faire, je sais du matos, j'en ai un peu, enfin, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut, et pourtant, j'y arrive pas. Alors, bien sûr, il y a des contraintes d'intégrer entre l'emploi du temps, etc., où je fais deux, trois trucs autres, ça c'est sûr, mais là, je le vois, je me suis pris une appli où j'appuie dessus et il me dit l'exercice à faire, et je les fais les uns après les autres, et en fait,
Là, tu suis bêtement.
j'y arrive beaucoup plus et je me pose mon cerveau, je suis pas en train de réfléchir, de attendre quel moment je vais concevoir, même si parfois ça me plaît, tu vois, de faire un programme de vélo, de machin sur plusieurs mois, de la planif, ça va m'intéresser, mais il y a des moments où et là, tu vois, je me dis, mais je passe mon temps à donner des moyens aux patients de faire évoluer eux-mêmes leur éducation, à pas leur donner un plan. Tu vois, je leur dis pas tel jour, faites ça, je leur dis, voilà, les principes, c'est ça, je les aide à intégrer tout ça, tu vois. Et je me dis, mais finalement, moi, qui ai tout ça à disposition, eh ben j'ai plus de facilité à me mettre en place quand on me dit exactement quoi faire. Et donc, du coup, ça, tu vois, ça me fait prendre du
Ou
recul. Moi, je suis
si t'as un
vraiment.
challenge, ou si t'as un challenge, si t'as une
Ah,
course,
ben
ou si
oui.
t'as un,
Oui,
si
tu
t'as
connectes ton
un,
petit point à la fin, ton petit
voilà.
machin, et tu vois, ça fait plusieurs jours de suite. Et c'est la gamification et tout, mais c'est tel. Mais tu vois,
C'est terrible.
et moi, dans ma pratique, je sais ça. Mais je sais que je ne l'utilise pas. Et j'ai souvent été contacté hein, par des applis d'exercices. Et moi, spontanément, dans ma pratique des exercices, je n'en ai pas besoin de 36 000. Je préfère des choses simples, qui sont faciles à suivre, etc. Mais tu as des patients, d'avoir toujours le même exercice, ça les saoule. Et tu vois, il y a vraiment ce. Je suis un peu dans cette dichotomie-là en ce moment. Donc, non, bah, c'est cool hein, ce que tu partages là. Et en plus, comme tu dis.
Mais justement, je pense qu'effectivement, avoir l'aspect, bah, je suis une appli et je suis l'exercice et après, bah, je finis un programme. Il y a un début, il y a une fin. Comme ça, du coup, c'est
Ouais,
toujours les
aussi,
mêmes exercices. Un début, une
bien
fin.
sûr.
Et surtout, la notion de challenge. La notion de, bah, vas-y, ensemble, on va essayer. Là, au mois de septembre, j'aimerais bien faire un 5 km avec mes patients qui sont en état de le faire. Je leur dis, bah voilà, objectif, on va essayer de s'inscrire à une course tous ensemble, on va essayer de le faire ensemble. Et du coup, ça. Ou alors, d'ici 2 mois, bah, du coup, on se dit qu'on va essayer de courir sur le tapis de marche, quoi. Et bah ok, bah, dans ce cas-là, je vais m'entraîner chez moi. Alors, je vais essayer de me motiver avec mes enfants. Ce week-end, on va sortir, on va aller marcher. Et pas juste, je fais les exercices et on ne sait pas jusqu'où on ira, quoi. Fixer des objectifs qui sont quantifiables dans le temps et qui sont arrêtés, quoi. Et je pense que ça, c'est indispensable aussi.
C'est vrai. Et tu vois, et ça moi j'arrive à le faire pour certains trucs et ça va très bien. Mais ce que je vois, c'est que je suis capable de faire ça pour la course, pour le vélo, depuis des années. Mais de renfort, j'avais jamais réussi à le mettre en place. Et puis ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des périodes où j'arrive à le faire, des périodes où j'y arrive moins. Et donc, en fait, à la fois pour différentes personnes, on est toujours dans cette histoire de s'adapter aux gens, en fait. Parce que tu as des personnes, tu leur donnes les ingrédients, enfin les ingrédients, ils vont se faire leur recette eux-mêmes, et puis ça va. Et tu as des personnes, ils vont être en difficulté. Et en fait, tu as des personnes, ça va dépendre des périodes. Et en fait, c'est ça l'histoire. Ça va dépendre du sujet. Moi, il y a des sujets où j'y arrive, des sujets où j'y arrive moins. Peut-être ça m'attire plus ou moins, j'en sais rien. Et il y a des périodes. Il y a des périodes où quand tu planifies bien, tu progresses, tu as ton objectif. Et puis tu as des périodes où en fait, tu fais juste reprendre, tu planifies pas grand-chose. Et là, tu tournes en rond, c'est chiant. Enfin, et en fait, tu es la même personne. Donc, vraiment, cette notion de s'adapter. Et surtout, du coup, ça. Tiens, encore une fois, hein, moi,
Accepter
j'avoue.
aussi qu'il y a des périodes. Tu vois, accepter aussi qu'il y a des périodes. Accepter qu'en fait, tu peux pas toujours être dans la performance. Et c'est pareil avec ton
Ouais, bah
patient.
ça, oui.
Surtout quand
Ça,
tu es dans une prise en charge chronique. C'est-à-dire, il y a un moment, vous en
c'est
aurez marre de moi, j'en aurai marre de vous. Et c'est normal. Et c'est OK. Et on fera une pause à ce moment-là. Et quand on se reverra dans 2 mois, bah, on sera content de se revoir et vous serez content de vous remettre dans la rééducation. Parce qu'il n'y a pas que la rééducation, il n'y a pas que l'activité physique dans la vie, il y a d'autres choses dans lesquelles il faut vous épanouir. Et c'est OK. Et juste accepter qu'il y a des cycles et qu'il ne faut pas être toujours dans la performance. Même si c'est bien de l'être à un instant T. Mais
Bah,
juste
surtout quand ça commence à
avoir
te
cette
manquer, en
notion.
fait. Quand ça commence à te manquer, quand ça commence à te. Mais c'est tellement important ce que tu viens de dire, hein, d'accepter, ouais. Et puis ce que tu dis vis-à-vis des patients et de s'exposer aussi, comme tu as dit. Hein. Bah, moi, ça peut même être moi, où je me dis là, j'en peux plus, et c'est juste humain, hein, c'est tellement important. Bah écoute, tu vois, j'avais enfin un autre truc en tête, mais je préfère finir là-dessus. Je pense que c'est vraiment, vraiment important ce que tu viens de dire. Donc, après, tu as le droit de dire autre chose hein, si tu as envie,
Ah oh, mais voilà, je trouve que
mais.
c'est C'est tellement important notre métier, on est tellement dans l'humain en fait que il y a tellement de choses qu'on découvre au fur et à mesure. Enfin, ouais, ma pratique d'avant et ma pratique de maintenant, elle est plus la même, mais je pense que toi c'est pareil, ça a tout changé quoi. Et voilà, être honnête avec toi-même sur ce que tu fais, c'est fondamental.
C'est ça. Et tout ça nous amène, on l'a pas dit, hein, biopsychosocial et le fait de prendre soin des gens et de prendre soin de soi, en fait, enfin, tout ça nous amène là-dedans. Un virage important en ce moment pour nous. Ouais. Ok, bah en tout cas, ouais, bah, écoute, merci beaucoup, hein, pour ton temps, pour cet échange, c'était vraiment
Avec
chouette.
plaisir.
Et puis, écoute. Eh ben, au plaisir de se refroidir, je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de se voir, mais vraiment au plaisir d'avoir l'occasion
Avec
de
plaisir, Guillaume.
te refroidir, ouais.
Merci
Merci
pour
Alice.
l'écoute. À très
À
bientôt. Au
bientôt.
revoir.
Salut.